Si je veux résumer le congrès de Bâle d'un mot, que je me garderai de prononcer en public, je dirais ceci. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui à haute voix, je déclencherais un rire universel. D'ici 5 ans peut-être, 50 ans sûrement, chacun le comprendra. Extrait du journal de Theodor Herzl en date du 1er septembre 1897.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur la question du sionisme. C'est un mot que l'on utilise beaucoup dans l'actualité. Et effectivement, c'est un mot chargé à la fois d'histoire, parfois mal compris, et puis qui est balancé souvent à la tête de ses adversaires politiques, entre sionistes, anti-sionistes, etc. Donc je vais essayer de regarder sur le plan de l'histoire ce que fut l'origine du sionisme dans la deuxième moitié du 19e siècle. Indéniablement, c'est effectivement à ce moment-là que des intellectuels juifs ont réfléchi sur la question de leur propre histoire et de l'avenir que pourrait avoir le peuple juif. Ainsi, Heinrich Gratz a publié entre 1853 et 1870 une série de 11 volumes, Histoire des Juifs depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, où finalement il posait à la fois les jalons de la très longue histoire du peuple juif et de son avenir au XIXe siècle. Cette question de l'avenir des Juifs est également posée par Moses Hess, qui publie en 1862 « Rome et Jérusalem, la dernière question nationale ». Parce qu'effectivement, en un siècle où les nations sont en train de se former avec l'influence des théories révolutionnaires, eh bien, où l'on voit émerger, par exemple, la Belgique, la Grèce, où il y a un sentiment national qui émerge également dans les pays des Balkans, où l'Italie, puis l'Allemagne, obtiennent leur unité, la question s'est posée de savoir est-ce qu'il y a une nation juive et mérite-t-elle qu'il y ait un État juif ? Et d'ailleurs, il y avait également un livre important en 1882, « Auto-émancipation » de Léon Pinsker, qui avait présidé une association qui défendait l'idée d'un État juif, les Amants de Sion. Parce que le mot sionisme vient tout de même de la colline de Jérusalem, Sion. Et le principe de base de ce sionisme, c'est l'idée qu'il faut un État national pour les Juifs. Reste que, même si les auteurs que j'ai évoqués sont importants, le rôle capital et que bien des personnes ont retenu du sionisme est joué par Theodor Herzl. Celui-ci est né à Budapest en 1860, dans une famille de la bourgeoisie juive de la capitale de ce qui va devenir, d'ici peu, l'Empire austro-hongrois. Il est installé à Vienne et il va devenir journaliste et correspondant de presse du journal libéral Neue Freie Presse. Le contexte compte beaucoup dans la prise de conscience de Herzl. Les pogroms russes dans les années 1880, à la suite de l'assassinat du tsar Alexandre II, qui sont organisés par le pouvoir russe pour trouver des boucs émissaires à l'assassinat du tsar, puis l'élection de Karl Lueger à la mairie de Vienne en 1895, sans compter les effets en France de l'affaire Dreyfus, car Herzl est à Paris en tant que correspondant de la Neue Freie Presse au moment de l'affaire, l'ont fortement influencé, pour ne pas dire choqué. Selon lui, si même en France, patrie qui a véritablement donné un statut aux Juifs dès 1791, il peut y avoir une affaire Dreyfus, alors les Juifs ne sont tranquilles nulle part dans le monde. D'où l'idée qu'il développe en 1896 dans son livre « L'État des Juifs », il faut un État national pour les Juifs, et ce va être le débat du premier congrès sioniste mondial initié à Bâle, du 29 au 31 août 1897, et où les 200 délégués à peu près débattent sur la création d'un État d'Israël.
Kol od balev
il convient de s'intéresser et de s'interroger pour savoir si les thèses sionistes, qui sont donc défendues dans l'ouvrage de Herzl et lors du premier congrès sioniste mondial, sont bien accueillies dans les milieux juifs. Indéniablement, les thèses d'une création d'un État d'Israël sont populaires dans les communautés juives d'Europe de l'Est, qui souffrent d'ailleurs d'un antisémitisme virulent qui peuvent aboutir à des violences physiques. Donc commence à naître le phénomène de l'Alia, c'est-à-dire la montée vers la terre promise. Entre 1882 et 1891, 25 000 arrivés en Palestine, et entre 1903 et 1914, 35 000 sont également enregistrés. Mais il faut bien voir que la plupart des Juifs qui quittent l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, ne vont pas en Palestine. Il faut savoir que 2,5 millions vont vers les États-Unis et vers l'Europe occidentale. D'autre part, les Juifs de l'Europe occidentale, qui sont souvent intégrés en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, ne souhaitent pas forcément aller en Samarie ou dans le désert du Negev, vivre à nouveau la vie sur la terre promise. Et donc finalement, plus que les orientaux, les occidentaux sont réticents par rapport à cette idée. D'autre part, le sionisme rencontre aussi, et ça je crois que c'est très important de le souligner, une opposition dans les milieux religieux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une image d'un sionisme qui serait à la fois très nationaliste et porté par les milieux ultra-religieux. Or, à la fin du 19e, début 20e siècle, les religieux sont hostiles au sionisme. Parce que qui a le droit de créer et de recréer, de restaurer un État d'Israël? C'est Dieu lui-même, ce n'est pas une volonté humaine. C'est ce qu'explique par exemple le grand rabbin de Vienne, Maitz Gutmann, qui a été grand rabbin pendant très longtemps, de 1866 à 1918, et qui publie en 1897, c'est-à-dire l'année suivant la publication du livre de Herzl, un livre intitulé « Judaïsme national », et où il défend finalement une certaine fidélité à l'Empire austro-hongrois et à la dynastie des Habsbourg, qui est protectrice. De même que le savant allemand Franz Oppenheimer, qui a fondé en 1897 l'Alliance sioniste pour l'Allemagne, défend l'idée que, à titre personnel, il se sent un juif allemand intégré et que la culture biblique qu'il a ne vient pas d'une Torah en hébreu, mais de la Bible traduite par Martin Luther. Donc, véritablement, il y a bien un débat au sein même des communautés juives. Quant à la perspective politique de la création d'un État d'Israël au début du XXe siècle, Herzl ne peut être que déçu. Il va être reçu par le Kaiser Guillaume II, par le pape Pie X, par le cabinet britannique, mais au final, on lui fait des bons mots, quelques encouragements, une sorte de bienveillance. Mais enfin, qui, avant 1914, peut effectivement sérieusement penser que l'Empire ottoman se déferait d'une province pour créer un État juif en Palestine? Ce qui fait que véritablement, la question ne se posera que beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'il faudra l'impact de la Première Guerre mondiale, avec la déclaration Balfour de 1917, qui évoque non pas un État juif, mais un foyer national juif en Palestine. Il faudra également la période du mandat britannique, dans les années 20 et 30, pour que les alias, c'est-à-dire les montées vers la terre promise, permettent de développer la présence juive en Palestine, au point que, à la fin des années 30, c'est à peu près un tiers de la population de Palestine qui est représentée par les Juifs. Et puis enfin, il faudra évidemment le choc de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah pour que les puissances s'emparent véritablement dans le cadre de l'ONU de l'affaire de Palestine et vote le 29 novembre 1947 un plan de partage entre État d'Israël, État de Palestine et une ville de Jérusalem internationalisée. Mais vous le savez, ce plan de partage de 1947 ne verra jamais le jour, il sera mort-né dans la mesure où la guerre israélo-arabe de 1948-49 ne permettra pas de créer un État de Palestine.